Bonsoir chers auditeurs, eh bien nous voici réunis une fois de plus dans le studio, Yves Tarantic au micro, avec en face de moi Anne Brassier.
Bonsoir chers auditeurs.
Bonsoir, et une fois de plus nous avons été chercher dans les relations d'Anne pour trouver quelque chose qui puisse vous intéresser le plus possible. Alors, nous allons vous présenter une lecture théâtralisée d'une nouvelle de Gertrude von Lefort, intitulée « Ultime rencontre », dans une traduction d'Henri Péter, qui est déjà fort connu, je crois, de nos auditeurs.
Et qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir.
Alors, avec à nos côtés, les comédiennes Natacha Bouillet, Lisa Livan, Geneviève Taillade, accompagnées du percussionniste Claude Sohen. Le thème, en deux mots, on vous l'a annoncé déjà plusieurs fois aujourd'hui, c'est un dialogue entre deux favorites de Louis XIV, Louise de la Vallière et la marquise de Montespan. Avant de passer à la pièce proprement dite, je voudrais rappeler en quelques mots qui étaient Louise de la Vallière et Madame de Montespan.
Et peut-être déjà qui était Gertrude von Lefort, et rappeler que...
Alors Anne, je vous laisse le faire.
Et rappeler que Gertrude von Lefort est cette prodigieuse écrivain allemande du début du siècle qui a eu l'idée du dialogue des Carmélites. C'est dans l'œuvre de Gertrude von Lefort que Bernanos a pris l'idée de son, le thème de sa...
C'est deux personnages. Elle a créé les deux personnages.
Henri Péter qui parle.
Elle a créé les deux personnages. Blanche de la Forte qui n'a jamais existé.
Oui.
Ah. Jamais, mais qui nous permet de rentrer sur la scène. Et Mère Marie de l'Incarnation qui a existé, mais pas comme ça, qui n'était pas courageuse. Donc elle a créé les deux pôles et grâce à elle, nous rentrons dans l'histoire, et Bernanos a repris ça au vol. C'est tout
voilà
ce que je veux dire.
Alors à vous...
Voilà, Yves. Alors, quelques mots sur Louise de la Vallière. Elle est née le 6 août 1944, à Tours. Et à 17 ans, Louise entre comme demoiselle d'honneur dans la maison d'Henriette d'Angleterre, c'est-à-dire madame, première épouse de monsieur, frère du roi. C'est une charmante jeune fille, et dès 1661, François Honorat de Beauvilliers, comte de Saint-Aignan, un proche de Louis XIV, la pousse dans les bras du jeune Louis. Le rapprochement se fera à travers la stratégie dite du paravent. Alors qu'est-ce que c'est qu'un paravent, ou chandelier aussi? Le roi feint de la courtiser afin de détourner l'attention de la cour pour ne pas qu'elle se porte en réalité sur l'idylle qui naît entre lui et madame, sa belle-sœur. Louise, secrètement amoureuse de Louis XIV, est ravie de servir de paravent. Rapidement, le roi, qui n'a que 23 ans, est pris à son propre jeu. Il tombe sous le charme de la jeune femme et en fait sa maîtresse. Elle aura 4 enfants du roi. Après la mort d'Anne d'Autriche, Louis affiche publiquement sa liaison, ce qui déplaît beaucoup à Louise, qui préfère les démonstrations de tendresse en aparté. C'est à ce moment-là que la cour voit reparaître la splendide Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, devenue par son mariage marquise de Montespan. Le roi, subjugué par cette beauté à montrer à tous les ambassadeurs, dit-il, cherche à en faire sa maîtresse. Le début de leur liaison, que l'on situe habituellement lors de la campagne des Flandres de 1667, marque le commencement d'un déclin de la faveur royale à l'égard de Louise. En mai 1667, décidément j'en veux pour 1967, un an après la mort de la reine-mère, Anne d'Autriche, Louise est faite duchesse de la Vallière et de Vaujours et sa fille est légitimée. C'est le cadeau de la disgrâce. Une longue période de cohabitation débute alors entre les favorites, jusqu'à ce que Louise, en 1670, après une longue maladie, peut-être une fausse couche, où elle pense mourir, se tourne vers la religion, rédigeant d'émouvantes réflexions sur la miséricorde de Dieu. Elle décide de quitter la cour pour entrer au très strict couvent des grandes carmélites du faubourg Saint-Jacques. On essaiera de la dissuader, mais rien à faire. Et peu de temps après, elle prononce ses vœux perpétuels. Elle prend le nom de Louise de la Miséricorde Et au couvent, on peut ajouter qu'elle reçut plusieurs fois la visite de la reine, de Bossuet, de la marquise de Sévigné et de la duchesse d'Orléans, belle-sœur du roi, à qui elle avait confié l'éducation de son fils, le comte de Vermandois. J'arrête là, on pourra en parler longtemps. Bon, elles ont vécu à peu près la même durée. La Vallière est morte à 66 ans et je crois Madame de Montespan à 67 ans. Henri, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire pour faire le lien entre cette courte présentation et la pièce ?
Très rapidement, je remercie Yves de nous avoir resitué historiquement la pièce. Je dirais que Gertrude von Lefort, c'est son caractéristique, transfigure l'histoire. Elle nous fait rentrer dedans. Et comme dans le dialogue de Carmélite, elle nous montre comment la grâce peut vaincre la peur. Mais je pense que je vais vous laisser.
Alors, écoutez, je voudrais juste rappeler qui joue les personnages. Donc, Louise de la Vallière est interprétée par
Geneviève Taillade.
Ensuite, Madame de Montespan par
Lisa
Livan. Et enfin, une récitante. La mère supérieure et la sœur tournière. Natacha Bouillet. Voilà, je crois que tout le monde est sur scène et bien sûr accompagné des percussions de Claude Sohen. Voilà.
Et nous sommes, la scène s'ouvre, nous sommes au couvent
de
Louise de la Vallière.
De Louise de la Miséricorde. Voilà.
La marquise, le visage dissimulé sous son voile épais, s'était avancée jusqu'au milieu de la nef de l'église, quand soudain, elle fut dans l'impossibilité de faire un pas de plus. Une épouvante indescriptible la saisit à la gorge.
Je ressens la présence à la fois majestueuse et douce de l'amour qui ruisselle du tabernacle. Mais si je fais un pas de plus, cette puissance de l'amour divin va m'anéantir.
Comme paralysée, elle se tint quelques secondes, immobile. Puis elle se décida à surmonter sa propre angoisse. Elle prit conscience que son corps se rebellait par des tressaillements et qu'il échappait ainsi à son habituelle force de volonté. Avec horreur, elle lança sur le banc voisin le cierge qu'elle voulait déposer sur l'autel en reconnaissance de la faveur qui lui avait permis de se tirer d'un mauvais pas. Mais sur ces entrefaites, elle ne put résister à la tentation de reprendre ce cierge pour le briser en mille morceaux. Car elle l'avait apporté pour remercier d'une faveur qui, en réalité, n'était qu'une illusion trompeuse. Elle tremblait encore du terrible entretien qu'elle venait d'avoir avec l'homme sur lequel elle avait régné de si longues années et qui était devenu son juge impitoyable, un juge qui l'avait soustraite à la justice des hommes.
« Je ne suis pas sauvée, je suis perdue. »
Et maintenant, le sentiment d'effroi qui s'était emparé de son âme devant le tabernacle avait aussi gagné sa clairvoyance, habituellement exceptionnelle.
Une peur consciente, bien plus profonde et terrible que celle que j'avais éprouvée il y a quelques heures devant mon juge terrestre, me secoue maintenant de la tête aux pieds. Il me semble qu'après avoir obtenu l'assurance de pouvoir échapper à mon juge, j'affronte maintenant seulement le juge véritable, celui auquel on ne peut échapper.
Bien plus, la sentence avait déjà été prononcée. Elle entendait clairement et distinctement les mots
« Je suis damnée ». Je suis damnée pour l'éternité.
Comme pour les contractions de son corps, l'énonciation de ses paroles était indépendante de sa volonté. Sa propre voix lui apparut dans toute son étrangeté, comme si elle pressentait que ses paroles, une autre les avait prononcées ou qu'elles lui avaient été extorquées contre sa volonté. Un désespoir fou l'envahit.
Il n'y a plus pour moi ni absolution, ni aucun sacrement de pénitence qui pourrait me redonner l'innocence. Il m'est donc impossible d'approcher de l'autel. Je ressens le même mouvement d'horreur qu'auparavant devant le tabernacle. Je suis damnée de toute éternité.
Il lui sembla qu'elle devait s'accrocher à un être humain pour échapper à l'effondrement où l'avait conduit son démon. Mais à cela aussi, elle ne l'ignorait pas. Elle devait renoncer. Une lettre de cachet avait enterré pour toujours, dans les prisons les plus muettes de Vincennes, les quelques confidents de son horrible secret. Pour ce monde, son secret était caché.
Seul un être qui se tient déjà au-delà de ce monde peut et doit être autorisé à entendre mon cri de détresse, moi qui connais toute l'injustice de la grâce qui me fut accordée. Mais où trouver une telle créature ?
La marquise n'en voyait qu'une. En même temps, elle prit conscience qu'elle se trouvait dans la même église où les diseuses de Bonaventure de Paris avaient l'habitude de rencontrer leurs clients.
Pendant un instant, j'ai cru sentir l'odeur d'une poudre que l'une d'entre elles m'aurait glissée subrepticement.
Alors d'un coup, elle se retourna et se hâta vers la sortie de l'église pour donner l'ordre à son cocher, qui l'attendait dehors dans son carrosse, de la conduire au cloître des Carmélites déchaussées. Il était déjà tard quand elle arriva. La sœur Tourière... regardait d'un air maussade à travers le guichet cette visiteuse du soir, si bien cachée sous ses voiles.
Pour l'amour de Dieu, sœur Louise de la Miséricorde divine.
Le parloir est déjà fermé. Les visites ne sont plus acceptées à cette heure.
C'est justement la raison pour laquelle je souhaite cet entretien. Je voudrais parler à la sœur, sans témoin.
Vous savez bien, madame, que la règle de l'ordre n'autorise aucune exception.
Oui, je le sais bien. Mais la raison qui m'amène ici justifie qu'on en fasse une.
Quelle dame en dehors de notre reine, notre protectrice éminente, pourrait exiger de la part de notre ordre une telle faveur ?
Oui, quelle dame en dehors de la reine pourrait oser l'exiger ?
De tout Paris, une seule femme peut s'exprimer de la sorte. Madame de Montespan. Ma fille. Le bruit court à Paris que la toute-puissante favorite du roi est tombée. Il est clair qu'elle désire recevoir consolation et qu'elle cherche l'aide de son unique rival, qu'elle a si souvent et tellement odieusement blessée. Allez désormais avec l'aide de Dieu pour venir en aide à cette malheureuse. Transformez l'ancien triomphe de votre adversaire en triomphe de la miséricorde divine dont vous portez le nom. Recevez pour cela la bénédiction de votre mère spirituelle. Vous avez pour cette entrevue toute liberté pour lui prêter assistance et n'épargnez aucune consolation qui puisse sauver son âme. Oubliez toutes les blessures que jadis elle vous infligea. L'heure solennelle de la justice que Dieu voulait vous accorder a sonné. L'heure de votre triomphe est arrivée, car il n'y a pas de vengeance plus noble que de faire du bien à son ennemi.
Loué soit Jésus-Christ.
La Carmélite, elle aussi, s'était manifestement attendue à autre chose. Elle commença à trembler. Sous l'habit, ses mains se déjoignirent et se mirent à pendre mollement. La femme voilée de l'autre côté de la grille reprit son souffle. En regardant ses mains sans défense, il lui sembla que disparaissait tout à coup la raison de sa venue. Cette épouvantable raison.
Oh, il est dangereux de faire voir ses petites mains tremblantes. Il est aussi dangereux de les regarder. C'est bien ainsi que ses mains jadis avaient tremblé lorsque, devenue l'ancienne favorite, je fus condamnée à aider ma rivale rayonnante à se parer. Un passé que je croyais disparu revient et fait irruption dans l'enceinte même du couvent où j'ai trouvé refuge.
Les larmes de l'ancienne favorite, mais aussi les diamants de la nouvelle qui triomphaient, étincelèrent. La marquise se sentit moins oppressée, comme si le motif précis de sa visite c'est-à-dire les événements récents, horribles et cruels qu'il avait décidé à venir, tout à coup disparaissaient. Tellement était puissant le souvenir qui se réveillait à la vue de son ancienne rivale et qui maintenant prenait possession d'elle.
Soudainement, j'ai la certitude que jamais, non jamais, je ne pourrai accepter l'humiliation d'une confession devant mon ancienne rivale.
Entre-temps, les mains sans défense de la Carmélite tremblaient avec encore plus de violence.
Oh, c'est dangereux de montrer ces petites mains désemparées, dont la vue a de tout temps réveillé les mauvais génies de la marquise. Elle n'est pas venue, contrairement à ce que croyait ma mère spirituelle, sous le choc de sa disgrâce, demander avec fièvre une consolation et une réconciliation, mais bien pour jouir une fois de plus de son triomphe, non de son triomphe de jadis, mais bien d'un de ses triomphes les plus récents.
La marquise releva son voile. La Carmélite retrouva alors le visage célèbre de son ancienne rivale, encore magnifique, comme une fleur bien trop magnifique, mais comme une fleur sans parfum, et à peine effleurée par la trace des ans, souriante, sûre de sa victoire, comme autant de celle que la cour appelait la glorieuse.
Vous souvenez-vous encore, madame, de celle à qui vous avez si souvent présenté le miroir quand elle mettait ses bijoux?
Comme elle se délecte de ma surprise. Comment pourrais-je ne pas vous reconnaître, madame? Le temps n'a pas osé toucher à votre beau visage. Je lui présenterai volontiers le miroir comme jadis. Pourtant, aujourd'hui, vous aurez quelques difficultés à trouver une sœur pour vous assister de la sorte. Alors que puis-je faire pour vous? Je n'ai pas d'autre désir que de vous servir.
Ces paroles bienveillantes n'étaient pas sans comporter une légère touche de condescendance dont la religieuse, à aucun moment, n'avait eu conscience. Et eurent le don d'irriter la marquise. Comme elle connaissait bien le calme insaisissable de cette créature pourtant si sensible et de cette âme si vulnérable.
Oh, ce visage légèrement fané, si touchant et insaisissable à la fois. Ce visage où si souvent j'ai tenté mais en vain de provoquer la colère et de voir couler les larmes. Aujourd'hui encore, j'en ressens le désir irrésistible.
Encore une fois, le passé ressurgit dans la pièce. Des paroles oubliées depuis longtemps, disparues, retentirent comme si elles appartenaient pour toujours à l'instant présent.
Tous ces cierges des appartements royaux semblaient s'être allumés pour éclairer cette scène impitoyable que je croyais à jamais enfouie dans ma mémoire et qui pourtant me restera à jamais inoubliable. Je me revois, déshabillant la marquise dans la chambre à coucher du roi, lui tendant la chemise de nuit ornée de dentelles. J'ai voulu fuir avant que le roi n'entre. En vain, mes yeux imploraient ma rivale de me laisser partir, mais elle m'obligea à rester. Oui, jusqu'à ce que vienne cet instant terrible où, rempli de honte et de douleur, je n'étais même plus en état de fuir. Brisée par la souffrance, j'ai échangé un regard avec le roi. Oui, pendant quelques secondes, on aurait cru qu'il allait se rendre à ma prière muette. Mais déjà, la voix éclatante de la marquise avait coupé court.
Donnez donc à madame au moins votre chien pour qu'elle le câline. Donnez-lui donc aussi quelque chose qu'elle puisse presser sur son cœur.
Oh, elle savait combien son exigence était infâme. Le roi aussi, d'ailleurs, le savait. Il avait rougi. Son esprit, naturellement chevaleresque, se rebellait. Cependant, il avait soulevé de terre son petit chien et me l'avait tendu. Si vaste et si profond était l'abîme où il était tombé depuis qu'il était sous son emprise.
On aurait pu s'attendre à ce que cette femme désespérée lança alors le petit chien au loin. Mais il n'en fut rien. J'avais pu tester mon pouvoir jusqu'à mon ultime triomphe. Il était double. La victoire sur ma rivale ancienne et la victoire sur un amant royal qui me résistait. Pendant un instant, je m'en souviens encore, j'étais restée comme pétrifiée devant le résultat de mes paroles. Mais de nouveau, j'observais les mains tremblantes de ma rivale. Non, elle n'avait pas rejeté l'innocente créature, mais elle avait caressé la douce fourrure du petit chien. En vain, j'avais scruté son visage pour y découvrir le rouge de la colère ou le jaillissement des larmes Cette absence de colère et de sanglots était-elle la manifestation d'une ultime fierté? Ou ne fallait-il y voir que la stupeur d'une femme désespérée? Je l'ignorais. Je savais seulement que jamais je n'avais pu réussir à troubler par des larmes cette femme effacée, mais sereine. Vais-je y réussir aujourd'hui?
Elle sentait que, quelles que soient les circonstances où elle rencontrerait son ancienne rivale, cette envie mauvaise de lui faire du mal se réveillerait en elle à l'instant même. Et maintenant que tout ce qui l'avait amené ici était complètement oublié, elle sentait encore combien il lui était insupportable de penser que sa rivale pourrait connaître la raison cachée et horrible de sa visite.
Oui, j'ai un souhait, madame de la Vallière. J'aimerais savoir pourquoi vous avez accepté de serrer sur votre cœur le petit chien du roi. J'y ai souvent réfléchi depuis lors, mais sans jamais trouver de réponse.
Je ne suis plus madame de la Vallière. Je ne suis plus que la petite sœur de la miséricorde divine. C'est elle, et elle seule, madame, que vous pouvez interroger.
Mais je n'interroge pas celle-là. J'interroge l'ancienne maîtresse du roi. Pourquoi êtes-vous restée si proche de votre rivale? Pourquoi n'avez-vous pas quitté la cour? Pourquoi ne vous êtes-vous pas épargné cette défaite?
Oh, madame, comment pouvez-vous m'interroger ainsi? Ne me suis-je pas par deux fois enfuie dans un couvent? Et n'ai-je pas été ramenée par le roi? Vous savez fort bien qu'il souhaitait ma présence à la cour.
Je sais, madame. Votre présence à la cour devait donner le change à mon époux sur mes relations avec le roi. Mais ce désir royal ne vous offrait-il pas une occasion opportune pour quitter la cour? Ou bien au contraire, ne vous offrait-il pas également une occasion supplémentaire de me ridiculiser vis-à-vis de mon époux? N'avez-vous pas été tentée de me créer quelques difficultés à cet égard?
Mais madame, vous devez comprendre que le désir du roi était un ordre. N'avez-vous pas vécu la même chose que moi?
Non, je n'étais pas assez puérile pour me fier comme vous au caractère fugitif de tels sentiments.
Alors je ne peux plus à cet instant qu'éprouver de la compassion pour vous.
Que signifie cette commisération? C'est-elle déjà quelque chose de ma disgrâce? Les bruits à Paris ont-ils circulé aussi vite? N'avais-je pas réussi à cacher mon terrible secret? Eh bien, madame, vous triomphez de pouvoir me prendre en pitié?
Je ne triomphe en aucune manière. Seul me reste le triomphe de la miséricorde divine. Je n'appartiens plus au monde d'où vous parlez.
Mais qu'éprouviez-vous lorsque vous lui apparteniez encore? Que ressentiez-vous quand vous étiez encore jeune et que vous aimiez la vie? Qu'est-ce qui vous donna la force de supporter votre défaite? Je n'interroge pas la pénitente, mais l'ancienne maîtresse du roi.
Vous vous trompez, madame. La pénitente dont vous parlez se tenait à cette époque à vos côtés. Alors qu'aux yeux de tous, elle était entourée de l'éclat du monde. Ce n'est pas au couvent, mais c'est dans le monde que j'ai trouvé ma véritable pénitence. Le couvent est un lieu de paix et de grâce. Les péchés que nous commettons dans le monde sont expiés dans le monde, en présence du monde. Ma faute était publique, c'est la raison pour laquelle mon expiation devait être publique. Vous-même, marquise, vous étiez celle qui assuriez ma pénitence. Dieu vous avait choisi pour être son instrument. J'ai souffert par vous tous les tourments que j'avais infligés à la reine. C'était la justice de Dieu que je rencontrais par votre entremise. Chaque humiliation dont vous avez été la cause est devenue un bienfait pour mon âme, sans que vous n'en sachiez rien. Et lorsque vous croyiez me blesser le plus profondément, vous étiez en réalité celle qui me purifiait. Vous-même, marquise, vous étiez l'instrument de Dieu à mon égard. Puisse ce que vous avez fait pour moi vous être aussi compté comme bénédiction. Puisse Dieu avoir pitié de vous, comme il a eu pitié de moi.
La marquise avait écouté les paroles de la religieuse en retenant son souffle. Elle était envahie par le sentiment d'être venue uniquement pour entendre cette parole. Elle ressentit une émotion profonde et surnaturelle, comme si la grâce qu'elle croyait à jamais perdue se penchait encore une fois sur elle.
Autrefois, il m'était aussi arrivé, quand je me confessais au prêtre et qu'il me donnait l'absolution pour mes peccadilles, de me sentir en état de grâce. Oui, Jadis, j'ai été pieuse et croyante.
La marquise eut soudain l'impression que l'inébranlable bienveillance et la patience de sa rivale, ayant dans un premier temps réveillé ses mauvais penchants, était en réalité une chance inespérée pour elle de pouvoir recevoir une grâce.
Et à cet instant, je vois clairement la raison de ma venue. Cette peur de la mort pour le salut de mon âme. Mais n'est-ce pas déjà trop tard? Non, ce n'est pas trop tard. Je dois juste m'attacher fermement aux paroles de ma rivale et seulement lui faire connaître la raison de ma venue. Maintenant, tu dois saisir la grâce. Maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. On ne doit pas faire attendre la grâce. Sauve-toi, avant qu'il ne soit trop tard, car il y a un trop tard. Maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais.
Encore un instant, elle hésita, mais cet instant lui fut fatal. Elle avait déjà franchi l'ultime limite de la patience que le ciel était prêt à lui accorder. L'instant suivant, elle retrouvait déjà la joie mauvaise qu'elle ressentait à mettre à l'épreuve la patience angélique de sa rivale, inspirée visiblement de la patience divine. À présent, elle savait qu'elle avait déjà franchi une barrière, que plus rien, ni aucune crainte, ne la retiendrait dans cette voie, mais qu'elle pourrait enfin goûter l'ivresse d'un bonheur et boire désormais à grands traits ce qu'elle n'avait autrefois qu'imparfaitement goûté.
Votre pénitence, madame, je l'ai chèrement payée. Si je suis l'instrument de la grâce qui vous a été dispensée, cela signifie que vous êtes en contrepartie l'instrument de ma perte. Parce que vous avez pu profiter du pardon, pour cette raison, il n'existe plus de pardon pour moi. N'avez-vous jamais réfléchi que votre présence à la cour devait me pousser au désespoir? Mais de telles considérations ne rentrent pas dans les préoccupations de personnes pieuses comme vous. Comment le pourraient-elles, puisqu'elles ne sont constamment préoccupées que de leur propre salut?
Non, madame. Cela ne se passe pas de cette manière. Non. En quoi mon retour en grâce devrait-il vous être fatal? N'est-il pas bien au contraire une consolation pour vous? Vous avez commis le même péché que moi lorsque vous avez répondu à la passion du roi. Nous avons été sœurs dans le péché. Nous serons sœurs sur le chemin de la miséricorde divine.
D'où savez-vous que j'ai commis le même péché que vous? Vous n'avez jamais compris la nature de ma relation avec le roi.
Si, Athénaïs, je l'ai comprise. C'était votre beauté extraordinaire qui vous fit remporter la victoire sur moi. Personne ne pouvait vous contempler sans ravissement.
Un moment, la marquise savoura le triomphe de voir, sans réserve, sa beauté reconnue par son ancienne rivale. Puis son visage prit une expression étrange, presque mystérieuse, comme si elle ressentait en elle une envie irrésistible d'horrifier son interlocutrice.
Non, Louise. Ce n'était pas par ma beauté que j'ai conquis le roi, mais par quelque chose de bien différent. Savez-vous ce que c'est qu'une messe noire? Bien sûr, vous le savez. Comment pourriez-vous l'ignorer? Tout le monde parle du procès mené à la chambre ardente que le roi a installé pour mettre fin aux agissements des prétendues tireuses de cartes. Le nom de la voisine qu'on a emprisonnée est sur toutes les lèvres. Chacun connaît la petite maison dans le faubourg où on se fait tirer les cartes et acheter ces dangereuses poudres qui, selon son désir, peuvent provoquer la mort ou l'amour. Mais je vous assure que la maison n'a rien de macabre, avec son jardin soigné qui l'entoure. L'intérieur de la maison aussi est agréable et propre. Les murs des pièces sont tapissés de papier peint, plaisant même avec quelques images pieuses. Pourquoi pas? La voisine qui y habitait était une brave femme. À ses côtés se tenait son mari. Ce n'était pas une créature diabolique, mais un brave homme, quelque peu naïf. Tout se passait fort discrètement pour ce genre d'affaires. On commandait la messe noire souhaitée. On faisait les incantations auxquelles le prêtre devait se livrer. Le prix était compté et payé, y compris celui pour le sacrifice exigé, oui, même parfois pour le baptême de l'enfant. Car la voisine ne supportait pas qu'on tue des enfants non baptisés. Vous êtes horrifiée, Louise. Mais par le ciel, que signifiait la mort pour ces petits, la plupart du temps des enfants illégitimes? Sinon, les préserver d'une vie difficile? Une incision, un soupir, et tout était fini.
Était-ce bien elle qui venait ainsi de s'exprimer? Comment en est-elle venue à cet aveu? N'avait-elle pas décidé au début de cet entretien de ne pas dévoiler son terrible secret? Quelqu'un l'avait-elle tourmentée sans relâche pour lui extorquer cet aveu? Et qui était-ce?
Cela ne peut être que lui. Lui-même, à qui ces messes noires abominables étaient offertes en sacrifice.
Saisie d'une épouvante soudaine, elle cessa de parler. Mais elle n'était plus en état par ses propres forces de se taire. Encore une fois, sa voix obéissait à cette présence invisible qui s'était maintenant emparée d'elle.
Eh bien, qu'avez-vous à répondre, Madame de la Vallière? Que dites-vous maintenant? Je veux dire, que pensez-vous de votre retour à la grâce auquel je dois avoir contribué? Vous m'avez appelé instrument de Dieu. Mais vous êtes-vous déjà demandé de qui vous avez été l'instrument à mon égard?
Je sens le sol s'effondrer sous mes pieds. Et je m'enfonce dans l'abîme. Suis-je donc la complice de ces abominations dont je suis accusée?
La marquise l'observait en retenant son souffle. Il n'y avait plus de doute. Devant elle se trouvait un être réveillé en sursaut, d'un repos en apparence intangible. Une conscience apaisée, emportée sans défense, vers une horreur sans remède. À ce moment, était en train de se briser le refuge auquel une âme s'était accrochée avec une volonté inébranlable.
N'est-ce pas vrai, Louise? Oui, n'est-ce pas vrai? Vous n'avez pas imaginé que vous auriez pu vous rendre complice d'une messe noire. Mon Dieu, vous étiez si incroyablement inoffensive. Que n'avez-vous pas fait pour tranquilliser votre conscience? Cette conscience était votre idole, comme vous l'avez flattée. Quel molle oreiller lui avez-vous offert? Certes, vous avez tenté jadis de fuir dans un couvent, sachant que sans aucun doute le roi viendrait vous y rechercher. Ne vous est-il jamais venu à l'idée que ce manège devait me pousser aux dernières extrémités?
Je me souviens encore de cet atroce voyage que nous avons dû faire ensemble avec la reine dans la même voiture. Le peuple qui se pressait curieusement nous appela effrontément les trois reines.
Vous, Louise, vous étiez de retour du couvent sur l'ordre express du roi. Vous paraissiez triste et bouleversée. La reine charitable y voyait là le sentiment d'une tristesse véritable et avait pitié de vous. Eh bien, cette petite femme insignifiante est comme tout le monde tombée dans le piège de votre prétendue contrition. Pourquoi pas? Le roi vous avait bien facilité la chose. Ah, il jouait alors bien son rôle, le roi soleil. Naturellement, il ne prit pas au sérieux vos larmes, mais se donna toutes les peines du monde pour les sécher. Chaque fois que, majestueux en cavalier accompli, il amenait sa monture à notre hauteur, il vous jetait un de ses bons mots. Il vous appelait le bel oiseau, qu'il ne voulait plus voir manquer à la cour. Heureux d'avoir regagné sa cage. C'était des paroles, vous le saviez bien, spécialement destinées à être rapportées à mon époux. Monsieur de Montespan était alors revenu à Paris et de plus ce qui était de mauvais goût en habit de deuil à cause de son épouse, pour ainsi dire morte à ses yeux. Je ne l'ignorais pas et vous non plus, non! Vous ne vous laissiez pas tromper comme la petite reine. Mais aussi, la comédie du passé, ce rayon égaré d'un soleil depuis longtemps décliné, donnait sens à votre vie. Il n'y en avait pas d'autre pour vous. Comprenez donc enfin quand je vous dis cette apparente pénitence était en réalité votre dernier bonheur. Vous restiez à la cour parce que vous ne pouviez vous arracher au voisinage du roi. Même abandonné par lui, il restait celui qui donnait sens à votre existence. Et je ne devais pas craindre un tel bonheur. Ne comprenez-vous donc pas que même dans votre amour impuissant pour le roi, vous restiez pour moi la rivale? Ce fut alors, à cette époque, après ce voyage, que j'ai commandé la première messe noire. C'était votre œuvre. Croyez-vous peut-être, comme tout le monde, que seuls de mauvais exemples conduisent sur le mauvais chemin ? Ah, Louise, vous ne connaissez que les petites fautes quotidiennes, les grandes fautes, les péchés vraiment démoniaques sont attisés par la contemplation même de la vertu ou par celle d'une grâce ou d'une beauté qui ne sont pas en notre possession.
Elle s'arrêta. N'avait-elle pas en effet, avec ses derniers mots, attesté elle-même de l'innocence de sa rivale au sujet des messes noires ? L'invisible ne lui avait-il pas joué là un mauvais tour ?
Si c'était donc vrai ?
Madame de La Vallière, cette femme douce, avait été arrachée à tout ce à quoi elle avait cru, à la pénitence, à la nécessité de sauver son âme et de trouver la paix en se réfugiant dans un couvent, et aussi à l'espoir qu'apportait la grâce de Dieu. Pour la première fois, son cœur tourmenté se révolta contre la cruauté de sa rivale.
« Vous m'avez dépouillé de l'amour du roi. Vous voudriez encore me priver de la grâce de Dieu. Partez, marquise. Partez, je ne puis supporter davantage votre présence. »
Vous me dites de partir, Louise. Mais où ? Quelque part en enfer ? Je croyais que vous m'auriez offerte votre place au ciel, après que j'eusse perdu la mienne, par votre faute.
Je n'ai pas de place au ciel à offrir. Oh mon Dieu ! Mon Dieu, avons-nous donc commis des péchés pour lesquels nous ne savons rien et qui pourtant sont les nôtres ? Existe-t-il en nous des lieux secrets de la plus grande déréliction où nul ne trouve une plus grande solitude ? Oui, tout ce qu'a dit ma cruelle rivale était exact. Mon maintien à la cour en tant que maîtresse délaissée ne m'avait pas été compté finalement comme une pénitence, mais en réalité comme un ultime bonheur. Tout simplement, je n'avais pas pu me détacher de la présence du roi. Même après avoir été cruellement rejeté par lui, il était resté celui par lequel ma vie trouvait son sens. Et maintenant, une fois encore, tous les cierges des appartements royaux brillent. Et j'entends encore des paroles inoubliables. Oh non, non, rien n'était oublié, rien ne peut jamais être oublié. Aucune pénitence présumée ne peut annuler les événements du passé. Tout reste intact et présent jusqu'à la fin des temps et jusqu'au jugement dernier de Dieu Tout-Puissant. Devant lui aussi, je ne serai plus la pénitente purifiée comme je l'ai imaginée, mais l'amante immuable, bien que coupable. Seulement donc une amante. Et maintenant s'effondre ma dernière certitude, l'assurance que j'avais pu trouver dans l'amour de Dieu un refuge. En effet, pour mon ultime et inaltérable bonheur, aucune limite et aucune souffrance ne m'avaient ébranlée. C'était donc bien ce qui avait poussé ma rivale à commettre des péchés mortels, à commander ces effroyables messes noires pour s'assurer la passion amoureuse du roi.
Tout un abîme s'ouvrait devant elle, celui qui paraissait l'enchaîner de manière irréfutable à l'action criminelle de sa rivale. Il sembla à la marquise qu'elle percevait derrière le voile de la religieuse un sanglot de détresse. Avait-elle enfin atteint son but ? Avait-elle réussi à faire pleurer sa rivale ?
Avais-je réussi à faire pleurer ma rivale ? Oui, j'avais réussi. Laissez-moi voir votre visage, Louise.
Elle frissonnait en effet à l'idée de contempler le visage de celle qu'elle avait poussée au désespoir, de peur qu'il puisse refléter en retour son propre désespoir. Dans le couvent, on a répandu plus tard la légende que Louise de La Vallière, face à la terrible accusation de sa rivale, avait voulu s'unir au mystère de la passion du Christ.
À cet instant, je n'étais pas en état de me prêter à cette union. Je me défendais toujours et encore contre l'accusation injuste de ma rivale.
Pourtant, dans toute sa faiblesse et son imperfection humaine, Louise représentait une lointaine image de ce mystère. La marquise le reconnut aussitôt.
Je voulais alors fuir comme je l'avais fait auparavant, dans la cathédrale devant le tabernacle, mais je ne le pouvais plus.
Celui qui s'était emparé de sa voix s'emparait maintenant de son corps. Sans qu'elle puisse bouger de sa place, ses membres étaient secoués par de terribles convulsions. Au même moment, la lumière de la lampe éternelle commença à vaciller. Une obscurité spirituelle, non perceptible par les yeux, semblait faire irruption dans la pièce.
Sauvez-moi, Louise ! Sauvez-moi ! Je suis perdue ! Je suis damnée maintenant et pour l'éternité !
Elle secouait les barreaux de la grille, comme si elle voulait les briser. Elle y cogna son front tant et si bien que son beau visage, maintenant entièrement défiguré, saignait. Les souffrances où elle se débattait n'avaient pourtant rien à voir avec ses plaies apparentes. Avec la force incroyable des possédés, Madame de Montespan réussit à forcer les barreaux de la grille et à s'accrocher fermement aux mains désarmées de la religieuse. À son contact, celle-ci poussa un cri d'effroi. Mais déjà, elle sentait les convulsions de la malheureuse se calmer.
Oh, comme j'ai toujours haï ses mains, comme je les ai haïs, même quand, avec une douceur patiente, vous m'assistiez dans mes parures, même quand vous pressiez le chiot du roi sur vos seins, je les haïssais. Et maintenant, ces mains représentent mon dernier espoir. Mais elles ne représentent même pas mon dernier espoir, ce n'est plus possible. Ah, Louise, vous ne savez pas encore tout. Ces messes noires ne devaient pas seulement provoquer la passion de Louis pour moi, elles devaient aussi provoquer votre mort. Oui, j'ai voulu et j'ai travaillé à votre mort, Louise. Seulement tant qu'il s'agissait de vous, cela ne convenait pas au diable. Seul la voisine était douée pour déchiffrer les humeurs de Sa Majesté le Mal. Quand il renonçait, elle lui donnait un coup de main, pleine de bonne volonté. Oh, elle avait des recettes merveilleuses, et beaucoup de personnes de haut rang les ont utilisées. Rappelez-vous ce qui vous a été envoyé.
Cette poudre, comme venant de médecin lorsque je suis tombée malade, après ce voyage que nous avons dû faire ensemble.
Votre femme de chambre m'avoua en pleurant que vous l'aviez refusée. Cette bonne créature croyait que vous ne vouliez plus guérir mais mourir près du roi. Seul votre amour vous a alors sauvée. Mais en vouloir à la vie de quelqu'un est déjà en fait un meurtre. Car tout ce qui a été prévu dans notre fort intérieur et préparé avec soin par nos mains a déjà son existence propre.
Et maintenant, on eût dit que toutes les lumières de la cour royale, précédemment rallumées, s'éteignaient à nouveau.
Une lueur étrange et spectrale m'apparaît. Elle est pareille à une flamme venue de l'enfer. Elle danse avec des reflets démoniaques à travers les jardins de cette petite maison du faubourg dont la marquise a fait mention. Elle tournoie à travers les chambres agréables, décorée de tapisseries plaisantes et d'images pieuses. Comme l'éclair, elle traverse les sombres hôtels consacrés aux messes noires. Elle erre à travers les palais des femmes de haute condition, par-dessus les couloirs secrets de la honte. Elle danse, moqueuse, dans les rues des habitants honorables de Paris, là où les servantes de la mort ont accompli leur office mortel. Elle se presse jusqu'aux marches du trône royal. Pour l'amour de Dieu, Athénaïs, le roi sait-il quelque chose au sujet de cette épouvantable confession ?
Oui, Louis sait tout. Les accusés me trahirent lorsqu'elles furent torturées. Ma femme de chambre fut confrontée aux témoins qui la reconnurent bien comme la messagère que j'envoyais à la voisine. La cour de justice de la chambre était dans l'obligation de transmettre ses dépositions au roi.
Oh, Louis a dû expier ce qu'il a fait subir à la reine. Mais quelle terrible expiation lui avez-vous imposée ? Vous, la femme qui, plus que tout autre, a été élevée par lui, la mère de ses enfants, qu'il a voulu légitimer en fils et fille de France. Oh, si vous aviez aimé le roi, il vous aurait pourtant aimé. Ces messes noires n'auraient pas eu raison d'être, car le diable a seulement le pouvoir que vous lui accordez. Ce n'est pas avec une messe noire qu'on peut mettre la main sur lui. Seul votre cœur, sans amour, a pu y arriver.
Louise, pourquoi avez-vous de la compassion pour le roi ? Et pourquoi n'en avez-vous pas pour moi ? Ne suis-je pas mille fois plus à plaindre que lui ? Le souci de la couronne et de sa gloire lui importe tout, plus que toute douleur. Vous auriez dû le voir à notre dernier entretien, comme il se tenait debout, dans l'attitude d'un juge lointain qui concédait à vous faire grâce, comme s'il ne s'était jamais retrouvé dans mes bras. Oh, la grâce de Sa Majesté est terrible quand il s'agit de la couronne. Certes, il a dissous en ma faveur la cour de justice. Le procès est suspendu, les accusés ont disparu dans des places de sûreté, les actes brûlés dans la cheminée du cabinet royal. Car la première dame à la cour du roi très chrétien ne doit pas être une criminelle. Mais quel prix dois-je payer pour cela? Oui, la grâce de Sa Majesté est inflexible quand il s'agit de la couronne de France. Comme vous, autrefois maîtresse rejetée, vous deviez rester à la cour et donner par votre présence le change à mon époux. J'y dois aujourd'hui rassurer de manière trompeuse le peuple et la bonne société à propos de bruits éventuels qui pourraient encore filtrer. Je dois paraître celle que je ne suis plus. Je dois jouer celle que j'étais exactement comme vous dans la voiture des trois reines. Deviez jouer encore la maîtresse depuis longtemps délaissée. Mais ce qui représentait pour vous un bonheur ultime et mystérieux signifie pour moi le tourment ultime. Car vous avez raison, je n'ai jamais aimé Louis. Et lui aussi ne m'a jamais aimé, mais seulement désiré. Car le diable peut tout accorder, excepté l'amour. C'était toujours et toujours la soif du pouvoir qui m'a conduite aux messes noires. Ah, Louise, le pouvoir est vraiment un présent du diable, et je me suis enivrée à son contact. Je pouvais me permettre de ne pas témoigner les égards qu'on doit à la reine, et que m'importaient alors ses larmes. Le roi soleil, devant qui toute l'Europe s'inclinait, était lui à mes pieds. Et pourtant, je vous jure, Louise, s'il m'est encore permis d'invoquer Dieu, il me confirmerait que ce que j'ai le plus envié chez vous, c'était votre amour. Et à ce moment encore, je vous jalouse pour votre amour. Car à cause de lui, il vous sera beaucoup pardonné. Mais à moi, rien ne sera pardonné de toute éternité.
Une nouvelle fois, on eût cru que des esprits maléfiques, invisibles, s'étaient introduits dans la pièce, pour cacher à l'une et à l'autre, chacune prisonnière dans sa pensée, les derniers fils ténus qui auraient permis à leurs âmes de se rejoindre et ainsi ne pas les abandonner à une solitude infinie.
Oui, Louise, j'ai été jalouse de votre amour. Et c'est la patience du ciel à votre égard qui m'a poussée vers vous dans un ultime espoir. Je me suis trompée cependant. En vain, j'ai voulu vous faire porter ma faute. Seule, la miséricorde divine a pu porter des fautes étrangères. Et cette miséricorde, je l'ai pour toujours ruinée. Chez les hommes, il n'y a pas de communion entre les pécheurs et les justes.
Si une âme ne peut plus croire à la miséricorde divine, alors la créature humaine doit assumer la miséricorde divine. Et pour cela, elle doit être aussi prête à partager le poids d'une faute qui lui est étrangère. Il existe un mystère nous réunissant tous dans la rédemption. Il existe aussi un mystère nous réunissant tous dans la faute. Dans ses ultimes profondeurs, il fait disparaître toutes les frontières, comme le flot sombre et profond de la mer. Si, Athénaïs, il existe bien une communion entre pécheurs et justes, car finalement, il n'y a pas de juste. Si, sans le savoir, je prends part à votre faute, de même, sans le savoir, vous prenez part à mon amour, car tout nous réunit dans une communion. Ce cœur que vous m'enviez, Il vous appartient. Pour toute la vie, son amour vous accompagnera. Restons sœurs, Athénaïs.
Merci. Eh bien. Sous le choc, Gertrude de Vaugefort termine en disant d'un seul, j'ai perdu la page, d'un seul geste, elle s'agenouilla sans un bruit devant son ancienne rivale et doucement, presque solennellement, baisa ses mains jadis tant haïes. Puis elle se leva, couvrit de son voile son visage inondé de larmes et sortit par la porte silencieusement, la tête profondément inclinée. On doit vous remercier parce que j'avais lu ce texte pour l'émission, pour mon émission, mais j'avoue qu'elle prend beaucoup plus de chair avec vous, d'autant plus que vous êtes parfaite dans les deux rôles. Vous, Louise, et vous, Athénaïs.
Merci.
Et je réfléchissais, nous sommes tout de même le mardi de la semaine pascale, de la semaine. Et cette réflexion sur le péché est d'une force absolument inouïe. Je suis sûre que Henri va être d'accord avec moi. C'est fou comme reviennent en leitmotiv, oui, les mots de contrition, de pénitence, de péché. Ces femmes ont conscience d'avoir péché et elles espèrent en un pardon et elles espèrent en une rémission et une contrition. On reste assez étonné. On dit que ce siècle a été un siècle de frivolité, de légèreté, de libertinage. Oui, mais il y avait aussi cette conscience du péché. Qu'en pensez-vous?
Oui, puis la religion était quand même toute puissante. Et là, on ne parle pas seulement de péché, on parle d'une chose qui est, qui est l'excommunication, qui est... Bon,
oui, la crainte de la damnation.
La damnation pour l'éternité. Mmh. Et finalement, la marquise ne s'était pas tellement trompée, puisque, sans parler de l'excommunication, mais c'est vrai qu'on ne lui a jamais, jamais pardonné. Puisque quand on parle de la Montespan, c'est vraiment la créature maléfique et tout. Et Louise est parée de toutes les grâces.
Faut continuer le combat.
Elle n'est pas jalouse. Elle avait raison. Rien ne me sera pardonné de toute éternité.
Oui. Enfin, oui. Mais elle n'a pas aimé. Et c'est ça le message. Voilà. Gertrude von Lefort.
Attention, Gertrude von Lefort n'est pas une historienne. Jean-Claude Petit-Fils, je crois, est un historien.
Oui.
Elle transfigure l'histoire. Ce que je trouve dans ce texte de Gertrude von Lefort que j'entends pour la énième fois, c'est qu'il traverse les siècles. Il est d'une actualité et il est d'une actualité brûlante. Et j'aimerais pas dire pourquoi, parce que ça déflorerait le texte. Mais c'est-à-dire qu'il résonne en nous. Et j'aimerais savoir, parce que ce texte, c'est pas moi qui l'ai mis en scène, c'est Lisa Livon,
Claude Darvy,
Natacha Bouillet, et j'allais dire Geneviève et Claude Darvy. Non, mais je veux dire, c'est tout. Pour moi, c'est tout l'ensemble. C'est vous trois et Claude Darvy et Claude Sohen. Et ce texte, je leur ai pas demandé de le mettre en chair, comme vient de dire Anne. Alors j'aimerais savoir pourquoi elles ont trouvé ce texte intéressant. Pourquoi il résonne encore pour nous en ce 21e siècle. C'est tout, c'est la question un peu naïve que je pose, c'est-à-dire que je m'abstiens d'en parler maintenant. Mais pourquoi vous, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous le Claude à vous tous, oui.
Juste une incise, nous sommes sur Radio Courtoisie, la radio du pays libre et de la francophonie, et vous écoutez l'émission Les Tréteaux de la France courtoise, dirigée par Yves Tarantic et assistée d'Anne Brassier. Et nous vous présentons ce soir Ultime Rencontre, un texte de Gertrude van le Fort
que vous pouvez
dans
lire.
Une traduction d'Henri Peter et que vous pouvez lire
aux éditions de Paris, les éditées.
Juste une seconde.
Oui.
L'ultime rencontre.
Oui. L'ultime.
L'ultime.
Absolument.
Et non pas ultime. L'ultime.
L'ultime. Begegnung en allemand. Excusez-moi de mon accent.
Voilà. Et pourquoi est-ce que vous trouvez qu'il est d'actualité, Henri?
Oh, alors c'est quoi le titre?
Oui, mais ça là.
Pardon, Yves.
Non, mais c'est vrai. Pourquoi je trouve. Mais j'aimerais mieux. Enfin, si, Anne, si tu permets que. Donner la parole à celles qui ont créé.
Tu as raison.
Et bien sûr, toutes les quatre et cinq avec Claude Darvy, bien sûr. Voilà, cela dit, je viens donner mon mot après, mais. Parce que c'est un texte, je vais encore ajouter, qui résonne pour des croyants, mais aussi pour des non-croyants. Ce texte a été donné à la Huchette. Les trois quarts de la salle, je ne pense pas qu'ils étaient spécialement attirés par le thème, et pourtant ils nous ont dit on n'a pas cessé d'écouter, on a été pris, c'est pas notre tasse de thé ce genre de sujet, nous avons été pris du début jusqu'à la fin, je peux en témoigner, j'étais là. C'est pour ça que je repose la question, pourquoi ce texte qui traînait à Saint-Michel a-t-il été pris par vous? C'est pas moi qui vous ai... c'est une initiative, Claude Darvy et vous quatre, hein. c'est bien exact ce que je dis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Sans doute, hein. Mais parce que c'est tout simple, c'est pour des comédiennes, ce sont des personnages déjà qui sont magnifiques, des personnages de femmes qui sont éblouissants, des femmes qui sont fortes, qui ont une situation à vivre exceptionnelle. Donc pour moi, en dehors de la religion même, c'est plus l'affrontement et les retrouvailles de ces deux femmes...
De rivales, oui.
De rivales qui vont d'un seul coup se retrouver. Et voilà, c'est ça déjà pour... Avant la religion, pour moi. Bon, avant... Oui.
Au fond, elles ont le même parcours et elles arrivent à la même conclusion, c'est que il faut se racheter avant de partir.
Mais c'est pas ça, c'est qu'on oublie aussi le contexte, c'est qu'il y a l'affaire des poisons.
Oui, oui.
Louise, elle est tranquille dans son carmel.
Oui, oui, oui.
La marquise, elle est en... Elle a failli...
Elle est quand même... Elle est quand même sacrément dangereuse, la Montespan.
La psychologie de Gertrude von le Fort est puissante, parce qu'elle arrive à déstabiliser Louise dans sa bonne conscience.
Oui.
Et c'est pas complètement volé. Et je veux dire que quand on est... un bon catholique, bonne conscience, on en prend plein la figure, pour en prendre une expression polie. Je veux dire, à ce point de vue-là, la pièce, la nouvelle, appelons-la comme on veut, n'a pas vieilli sur un fait historique qu'on connaît plus ou moins bien, dont on ne connaîtra peut-être jamais le dernier mot. Elle nous prend au corps, cette pièce, elle nous travaille au corps, elle nous travaille au cœur, et ça fait 10 fois que j'écoute ce texte, et chaque fois, on fait un petit chemin, enfin j'espère.
On trouve quelque chose.
Et je me sens pas très, comment dire, je me sens pas toujours très à l'aise à écouter ce texte parce que on s'identifie forcément aux deux personnages un petit peu. Et c'est magnifique de les voir aller si loin dans l'affrontement. C'est magnifique et en même temps, comme a dit Anne, ça me paraît pas déplacé dans la Semaine Sainte, même si c'est pas votre intention directe.
Ce que je trouve extraordinaire, c'est la phrase finale. Même si vous, Athénaïs, ne croit pas, donc ne croit pas en la miséricorde de Dieu, elle n'espère plus. Et c'est finalement le péché, le pire, ne plus espérer. Ouais. Et Louise lui répond, si vous n'y croyez pas, nous allons partager cette faute. Et c'est en ça que le texte est contemporain, parce que nos contemporains ont un peu oublié Dieu, mis Dieu, rejeté Dieu et de la ville et de leur vie. Et donc, ils sont dans cette situation-là. Et c'est ce partage de la faute qui est très beau.
Nous allons être seuls.
Et ça se termine par un amour magnifique.
Oui.
Un partage de fautes et restons sœurs.
Restons sœurs.
Athénaïs.
Oui, c'est beau. Oui.
C'est plein d'espoir, c'est magnifique.
Puis prendre part à la faute des autres. Enfin, oui. Ça, c'est quand même l'acte de consécration que font les religieux, n'ayons pas peur des mots.
Je crois avoir entendu qu'elle lui dit « Si vous ne croyez plus en la miséricorde de Dieu, croyez en la miséricorde humaine. Soyons-nous miséricordieux. »
Oui, tout à fait. Hein?
C'est le moment de parler de ce très beau texte qui est paru dans la revue de la Bétanoirne de Gertrude van Lefort sur le poids de la culpabilité allemande.
Notre chemin dans la nuit, oui, une conférence qu'elle a fait en 1947.
Texte, je le conseille aux auditeurs, enfin, ceux qui sont magnifique. Comme moi, très 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 fous de Gertrude van Lefort et de sa prose. Parce que, chers auditeurs, vous pouvez aussi lire L'enfant étranger chez Via Romana et La femme éternelle. Et je peux vous dire que vous ne serez pas déçus. Ce sont des textes d'une profondeur à chaque fois. La femme éternelle, c'est une réflexion sur la femme, son rôle, sa puissance et sa grâce.
Mais sa force.
Sa force, voilà. Gertrude van Lefort,
c'est la force de la femme.
Très, très fort, parce qu'on peut penser... la dernière à l'échafaud, bon, je parle pour les gens
qui ne sont
pas concernés par la religion,
se
dire, bon, ben, ça y est, ça va être béni, oui.
Puis, oui.
Pas du tout, c'est une femme forte, vraiment, vraiment. Oui, c'est une Prussienne, hein, déjà.
Oui,
donc
c'est une fille de militaire, prussienne.
Donc elle est quand même...
D'une aristocratie, quand même, il y a eu beaucoup d'apports ailleurs. Enfin,
elle est
Prussienne, du côté de son père, du côté, dans l'éducation, nous sommes d'accord.
Ce qui est quand même Henri.
Non, mais enfin, je veux dire, elle a quand même une grande...
Donc elle a une rigueur, elle a une force pour une femme, pour un auteur femme, qui est quand même assez rare.
Et alors dans ce texte donc que Henri Peter a donné à l'abbé de Tannoirn, qui est publié donc dans cette revue Res Publica, elle explique le mal dans cette Allemagne de l'après-guerre. Et comment se dépêtrer de ce sentiment horrible de culpabilité que chacun avait et que le monde entier leur a fait porter, comme si les autres étaient les petits saints. Donc c'est un texte qui est très beau.
Oui, mais
vous en parlerez mieux.
Ce texte suffit à lui-même, il est très beau, mais elle affronte le mal. Il ne faut pas oublier que Gertrude van Lefort est avant tout un écrivain, ce n'est pas une philosophe, mais elle a lu Kierkegaard. C'est plus facile à lire Gertrude van Lefort que Kierkegaard.
Oui.
Maintenant, je peux donner un scoop que j'ai appris récemment, il y a deux jours. Edith Stein, elle avait sa photo quand elle a écrit La femme éternelle. Sa photo, Edith Stein, la carmélite, qui était martyrisée et qui s'était offerte par avance en consécration.
Comme les religieuses
de Compiègne. Edith Stein, elle avait la photo d'Edith Stein quand elle a écrit La femme éternelle, mais Edith Stein, ce que je ne savais pas, a pris La femme éternelle au moment où elle est devenue carmélite dans ses méditations. Bon, Edith Stein, c'était pas une petite pointure, c'était une femme qui avait une pointure philosophique à peu près de la hauteur d'Anna Arendt, qui était l'assistante d'Ursel. Enfin, c'est quand même un très grand esprit. Hein,
Edith Stein. Et vous avez appris ça
Oui, je ne vous dirai pas par qui, mais par quelqu'un qui connaît bien
la vie d'Edith Stein.
Et qui ne connaissait pas Gertrude van Lefort et qu'en faisant des recherches.
C'est extraordinaire.
Mais c'est, si vous voulez,
c'est la vertu de force
au bon sens du terme. Les femmes ont la force. Et d'ailleurs, la vraie force qui va plus loin.
Et puis cette comparaison entre les petites fautes quotidiennes de Louise et les grosses, grosses fautes, parce que tout de même, les messes noires d'Athénaïs, cette différence de balance, enfin, tout y est dans ce texte.
Elle est surtout d'une grande perversion, finalement.
Tu parles de Louise
ou de Gertrude.
Les deux personnages, je trouve, sont très ambigus, finalement.
Comme disait Anne, le combat continue.
Ça ne nous a pas échappé, oui.
Mais c'est assez monstrueux, quand même. Effectivement, quand elle lui dit « Vous n'êtes capable que de petites fautes », il y a un mépris de la part de la Montespan
par rapport à ce que c'est qu'une petite faute et l'orgueil oui, démesuré.
Même les fautes, oui, elle les veut grandes.
C'est ça. Mais surtout, c'est très intéressant, c'est l'étude de l'âme humaine, parce que moi aussi, je me suis plutôt intéressée au côté humain que religieux. Et c'est vrai qu'il y a une étude de la jalousie, du processus de la jalousie qui est vraiment... terriblement, j'allais dire, pervers, enfin, vraiment.
Fouillé au scalpel.
Il faut dire que Louis XIV, non plus, n'est pas indemne de tout péché. Vraiment, faire se complaire dans le spectacle de ces deux femmes. Qui se mordent les lèvres pour ne pas se précipiter l'une
cruauté,
sur l'autre.
C'est une cruauté.
Il l'arbitrait quelquefois, puisqu'elle se fâchait, il les réconciliait.
Oui, mais est-ce cruel ou met-elle les âmes à nu? Parce que les grands thèmes de Gertrude von Lefort, c'est la réconciliation, mais pas la réconciliation à n'importe quel prix. La réconciliation en mettant notre âme à nu. Et là, elle est à la fois d'une tendresse maternelle irridiante, et en même temps d'une lucidité aristocratique ou pas, j'en sais rien, impitoyable. Car elle ne, c'est vrai que elle ne laisse rien passer. Ni pour l'une, ni pour l'autre.
Absolument.
Qui sont d'ailleurs, bon, attention, qui sont d'ailleurs bon, pris comme exemple pour notre vie de tous les jours. Enfin, je veux dire, qui incarnent des personnages que nous revivons aujourd'hui. Encore, c'est ça aussi.
C'est de la modernité. Oui.
Pour en revenir à la personnalité de Madame de Montespan, je voudrais quand même rappeler que c'est en grande partie à elle qu'on doit, sans doute le terrain était-il favorable, le goût de la magnificence qui a submergé Louis XIV. Et voilà. Et d'autre part, elle a plus ou moins été accusée de la mort de Mademoiselle de Fontanges, de l'avoir assassinée, puisque c'est Mademoiselle de Fontanges qui a eu pendant un moment les faveurs de Louis. Et en fait, on sait maintenant qu'elle est morte d'une pleurésie, parce qu'on a des dossiers.
Voilà. Oui, on ne peut pas lui prêter plus de crimes qu'elle en a commis. Voilà. Nous sommes d'accord. Non, elle a fait subir un martyr à son époux. Époux l'aimait.
Le cocu magnifique.
Le cocu magnifique, il se promenait avec
son carrosse.
Avec des cerfs, des bois de cerfs sur la tête.
Aux quatre coins de son carrosse.
Pour montrer à tout le monde qu'il était cocu et qu'il le savait. Ouais, je crois qu'il y a une.
Il y a eu un film il y a quelques semaines.
Il va y avoir un film. Était très bien. C'est Jean Tellet qui a écrit le Montespan. Oui. Et il y aura un film.
Mais il n'est pas fait, ce film ?
J'ai
confondu avec le.
Non,
le
mais il y a eu un livre de.
Oui, je l'ai lu.
Il y a eu un livre de la spéciale d'Ève Ruggieri. Ève Ruggieri a écrit La vie de Madame de Montespan.
Jean-Claude Petit-Fils a fait récemment un livre dessus. Mais oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas lu, mais il reste un certain mystère. Voilà, c'est tout. Il pense qu'il y a des soupçons.
Le mystère, c'est qu'on ne sait, pas si elle a réellement participé à des sacrifices d'enfants. Noires, voilà. Il n'y a jamais eu de preuves, soi-disant. Mmh. Elle a fait des messes noires, de toute façon.
Oui, est-ce qu'elle est allée jusqu'au bout? Oui.
Voilà, sacrifice.
D'autant que l'enquête a été détruite par.
Oui, tout
par
a été. Roi,
et que les aveux des autres ont été extorqués sous la torture.
Sous la torture. Oui, donc elle est participée à,
Ces messes noires étaient quand même à base de sacrifices d'enfants, c'est quand même.
Oui, ce n'est pas rien.
Ce n'est pas rien.
Mais ça doit exister encore.
Tout existe. Alors,
ça existe. Donc, on les sacrifie beaucoup plus tôt maintenant. On les sacrifie dès la conception. Voilà, trois semaines après la conception.
Jean-Christian Petit-Fils, il a écrit un Louise de la Vallière, un Louis XIV. Édition Perrin, deux, en 2002.
C'est lui, Jean-Christian Petit-Fils, qui dit que c'est la première fois. Voilà, j'ai retrouvé l'info. Que Louis XIV avait pour favorite une femme mariée.
Eh oui.
Ça n'avait aucun roi de France.
Ah, aucun roi, oui, avant lui, d'accord.
Avant lui,
qui a pris une femme mariée.
Voilà,
d'accord.
Et quand il a demandé, la reine avait demandé justement que les dames de cour soient mariées justement pour être sûres qu'il n'y aurait pas
dans son entourage.
Bingo.
Ça veut pieux d'être
voilà. Pas mal. Ouais. Parce qu'autrement, elles étaient toutes jeunes filles et c'est vrai que Louis piochait.
Moi, ce qui me frappe, c'est cette notion, encore une fois, du péché. où j'ai lu une biographie remarquable de Louis XV, qu'on accuse toujours de dépravation totale. En réalité, il assistait chaque matin à la messe.
Mais oui.
Et se confessait d'avoir péché. On ne comprend pas ce siècle si on n'est pas dans cette,
mais tout à fait.
Dans cette idée-là du sens du péché. Ils pêchent, c'est entendu, mais ils ont le sens de ce péché. C'est qu'il y a quand même une belle allure. Voilà. J'ai envie de demander aux auditeurs si ils ont aimé la pièce de favoriser son écoute une nouvelle fois et sa diffusion, puisque vous cherchez d'autres salles, vous cherchez d'autres occasions,
endroits, oui. Voilà, d'autres lieux pour
vous l'avez même joué chez des particuliers déjà.
Chez des particuliers, voilà, en appartement.
35 personnes.
Oui. Voilà.
À Vézelay.
Ce qui est très agréable. À Vézelay aussi.
Deux fois dans la basilique et dans la salle.
À Lompon.
À Lompon.
Dans la maison de Jules Roy.
Oui, c'est ça.
Voilà, vous avez une espérance à Avon, près de Fontainebleau, à côté du château.
Oui, Avon, on a eu une espérance. Oui, et puis peut-être. Mais enfin, on cherche parce que. Il faut un nombre, pour quel nombre, à peu près une cinquantaine de personnes, 60, 70.
Alors, vous voulez laisser un téléphone pour qu'on puisse vous joindre, le cas échéant, les auditeurs.
Bah, qui, oui.
Oui, Henri. C'est notre grand organisateur.
Bah, écoutez, donnez mon numéro à l'antenne, je veux bien.
Il est tout timide.
01 44 53 62 80. Voilà,
on répète.
01 44 53 62 80.
Henri Péter.
Oui, Henri Péter, mais ça m'en... pour une salle.
Il faut rendre hommage à ce son, oui. Cette mise en son que vous avez faite, monsieur, parce que ça agrandit considérablement le texte. Oui. Alors, il y a évidemment le pas du cheval, ça c'est extraordinaire. Je suis ravie de voir qu'on fait un pas de cheval avec une noix de coco. Ça me fait un plaisir fou de savoir ça. Parce que pour moi, le pas d'un cheval, c'est un.
Et les auditeurs pensaient qu'on allait amener un cheval. Quand tu casses le cheval.
Quelle déception. Briseuse de rêve.
Mais alors, vous avez aussi. vous avez des sons que vous reproduisez, notamment toutes les chandelles de Versailles. Vous avez un bruitage particulier. C'est.
Subcerné d'instruments.
Surtout avec la cithara.
Oui, mais c'est très passionnant. Alors, vous lisez le texte et vous imaginez comment travaillez-vous. Pardon, il faut vous approcher parce que le micro est un peu loin. Voilà.
Claude Darvy, donc, que je connaissais bien, m'a demandé si je pouvais amener ma petite pierre à la construction
édifice,
de cet édifice. Et je lui ai dit avec grand plaisir. Et c'est elle qui avait déterminé avec précision tous les endroits où elle souhaitait des ponctuations. Ah, oui. Il n'était pas question que ça devienne un concerto de percussion, mais ça n'aura aucun intérêt. Donc elle m'a fait voir les endroits précis. On s'est vus tous les deux pour voir les endroits où, non seulement ça, et surtout les couleurs. Parce que j'aimerais ci, j'aimerais ça. Alors, on ne pouvait pas amener des claviers, xylophones, vibraphones, ça n'aurait aucun intérêt. Alors on a pris des petites choses comme ça, des cymbales, une cloche, voilà.
Oui, la cloche, on entend bien.
Voilà, c'est tout. Puis des petites ponctuations. Ouais. Faire une espèce de petit décor musical, puisque en église, ça rend, ou à la Vézelay, ça rend magnifiquement bien.
J'imagine.
À la basilique de Lompon.
À Lompon, ça va être
très. J'imagine, oui.
Ouais, même ici, d'autant que la cloche est un tube.
Oui, la cloche, c'est assez extraordinaire. Il m'arrive une aventure étonnante. Sur mon ordinateur, j'ai un dessin et il y a un petit moine qui sonne une cloche à toutes les heures où les moines se rendent à la chapelle pour prier. Parce que j'ai demandé des informations sur le nouveau monastère construit par l'abbaye du Barou. Et ils m'ont envoyé sur mon internet un message, je construis un monastère, et tous les jours, il m'envoie un texte, le texte du jour, lu dans le monastère, et donc ce petit moine qui sonne la cloche. Et j'avoue que cette cloche de monastère qui sonne dans mon bureau donc plusieurs fois dans la journée, ça me remplit de joie. Et c'est aussi, bien sûr, une préparation pendant le carême assez extraordinaire.
On sonne toujours les cloches dans les villages. Il y a l'Angélus, dans mon village, qui est pourtant pas du tout très bien pratiquant. Sûr. On sonne encore l'Angélus et les gens en Bourgogne y tiennent.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà, ça rythme-là.
Alors, comme bien on a sûr. Un peu de temps, je vais vous lire un tout petit texte en prose qui s'intitule « Madrigal », qui est de moi, mais c'est pas ça qui est important. Mais il parle de personnages que nous avons rencontrés tout à l'heure. On a parlé d'un monsieur Saint-Aignan.
Oui.
Alors, il y en a un deuxième. Alors, ça s'intitule donc « Madrigal ». Sa Majesté, Louis, 14e du nom, se piquait depuis quelque temps de faire des vers. Messieurs de Saint-Aignan et d'Anjou se chargeant de lui enseigner le tour et la manière. Et Louis, dernièrement, commit un petit madrigal que lui-même ne trouvait point trop joli. Aussi, prenant à part monsieur de Gramont, monsieur le maréchal, dites-moi, je vous prie, ce que vous pensez de ce madrigal qu'on me fit en lire à l'instant, sachant que je me plais à ouïr de beaux vers. Mais que pensez-vous de ceci ? En vîtes-vous jamais de plus niais ? Ayant lu, le vieux maréchal dit au roi, « Votre majesté a le goût très sûr. Voilà bien le plus sot, le plus niais de tous les madrigaux qu'il me fut jamais donné de lire. » Le roi se mit à rire. « Et n'est-il pas vrai, monsieur le maréchal, que celui qui l'a fait est un fat et un sot ?»« Ah, sire, nul ne saurait mieux dire que votre majesté. » « Je suis bien aise que vous m'en ayez parlé aussi bonnement, monsieur le maréchal, reprit alors le roi, car ce madrigal, c'est moi qui l'ai fait. »« Ah, sire, quelle trahison, dit alors le pauvre Gramont, que votre majesté me le rende, je l'aurais lu trop brusquement. »« Non, non, monsieur le maréchal, non, rétorqua le roi, vous avez raison, les premiers sentiments sont les plus naturels. » Le roi, dit-on, a fort ri de cette folie, et tout le monde à la cour trouve que voilà la plus cruelle petite chose qu'on pouvait faire à un vieux courtisan. Pour moi, dit Madame de Sévigné, commentant l'incident, je voudrais que notre roi se fît là-dessus son opinion, et qu'il juge de combien il est loin de connaître la vérité sur les événements qui lui sont rapportés.
Oui, très très.
Voilà. Cette conversation à la cour, ça devait être quand même quelque chose.
Ah oui, la cour, ça devait être... Il y a aussi, par exemple, les nièces de Mazarin, enfin Anne-Marie de Médicis, qui était une gamine élevée à la cour à 8 ans, c'était une effrontée pas possible. Et on lui avait fait une blague, c'est-à-dire que... un matin, on a commencé par lui coudre ses habits. On les reprenait tous les deux jours, peut-être, en lui disant qu'elle grossissait. Donc Mazarin se moquait d'elle, il dit « mais tu grossis ». Puis il lui disait « puis un tel, il te courtise, etc. » « Non, non », disait la gamine, « non, non ». Et puis il lui disait « mais tu lui plairas jamais, tu grossis ». Effectivement, elle ne le croyait pas. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a poussé un peu plus loin la plaisanterie, on a emprunté un poupon, c'était une chambrière quelconque, et que pendant qu'elle dormait, le matin, on l'a mis dans son lit. Et quand on l'a réveillée, tout le monde était autour d'elle, son oncle, Mazarin, etc. Et on lui dit, mais alors tu vois, ça y est, t'avais un bébé, tu vois, on t'a dit que tu étais enceinte. Et alors elle a dit, mais non, c'est pas possible, parce que il n'y a que monsieur de Gramont et Louis qui m'aient jamais baisé. Parce que le mot baiser avait deux significations, bien sûr, voilà. C'était Anne-Marie Mancini qui protégea plus tard Louis XIV, comme l'a fait Madame de Montespan. Louis XIV, pardon, La Fontaine.
La Fontaine. Oui. Votre La Fontaine, alors, c'est Fontaine le moment Molière. Que vous nous annonciez le festival de La Fontaine.
Alors, je n'ai pas les dates. Ah bon. En principe, ça commencera le 21 mai.
C'est pas encore tout de suite.
Mais je les donnerai à la prochaine émission. Suite, oui. Avec des détails, et nous organiserons une sortie d'une journée avec bien un déjeuner en bord de Marne, une visite, un musée ou autre chose, et une pièce de théâtre que nous choisirons soigneusement parmi toutes celles qui sont présentées au festival. Voilà.
Très très bien.
Mais c'est encore un peu tôt.
Plusieurs, il faut que vous recrutiez plein de pièces.
Ah oui, mais le festival, on a un choix. Mais oui. Justement, comme je vais faire ça obligatoirement un samedi, et qu'il n'y a que trois samedis, puisque c'est trois fins de semaine, le festival, bon, je me mets d'accord avec le président pour qu'on joue ce soir-là la plus belle du... Il y avait eu l'année dernière, par exemple, une pièce sur les mots du dictionnaire de M. Furtière. Mm-hmm. Paraît étonnant qu'on puisse faire quelque chose, et c'était une merveille.
J'imagine.
Vraiment une merveille. Voilà.
Mais il faut nous la donner, cette pièce. Il faut nous...
Oui, mais il faudrait que je recontacte la troupe. Mais c'est, y a
et
de
vous
la
avez
danse.
Le texte ?
Non, parce qu'il y a de la danse dedans, il y a de la commedia dell'arte, il y a plein de choses. J'avais pensé
ça va être dur,
qu'on ne peut pas mettre derrière un micro. Non, je ne pense pas. Ça perdrait la moitié ou plus de son charme. Alors, est-ce qu'on peut rappeler un peu les comédiens ?
Bien sûr. Hein ? Et leur prochain spectacle ? Vous avez un prochain spectacle ? Non, pas tout de suite, Mais vous nous communiquerez. Oui, alors, vous jouez ?
Je joue au théâtre de la Huchette, dans la cantatrice chauve, Madame Smith.
Oui,
voilà. Quand ça ? Et où ?
Alors nous jouons en alternance, le théâtre de la Huchette.
Oui,
de la Huchette.
Oui, je sais. j'y suis allé souvent.
Le mystère, il existe toujours.
Le mystère de la cantatrice.
Qui a joué pendant des semaines sans Debussy, là, mais... Mais je parle pour les auditeurs, là.
Ah oui, oui.
Il y a peut-être des auditeurs qui débarquent de Marseille il y a trois jours
et qui ne connaissent pas le théâtre de la Huchette.
C'est le mystère de cette pièce qui dure depuis des années.
C'est plus de 50 ans.
Oui.
C'est fou. Hein.
Donc, rue de la Huchette.
Rue de la Huchette au 23.
Au 23.
Précision.
Et le prix de l'entrée ?
22 euros, monsieur.
D'accord. Et si on se recommande de vous ?
Ça dépend.
Il nous reste 5 minutes pleines.
Moi, je peux recommander Colombe d'Anouilh à la Comédie des Champs-Élysées avec Annie Dupéret et sa fille, Sarah Giraudot.
Giraudot,
c'est un très joli texte d'Anouilh. C'est pas l'un des plus gais, s'il en est, parce que de toute façon, Anouilh n'est jamais très gai. C'est assez sinistre, mais. C'est très beau.
C'est
une histoire triste d'amour. Peut-être que j'invite les auditeurs qui nous écouteraient et qui sont au Mans à venir lire sur les tilleuls pour vous rencontrer.
Oui, oui. Moi, je serai en tant que visiteur, cher ami.
Vous viendrez bien avec vos poèmes.
Bon, j'ai quelques.
S'il vous plaît. Et puis Henri peut-être sera là aussi.
Peut-être.
Henri, un déjeuner de famille. Donc. Ouais. Mais vous rencontrez. Alors, c'est pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ces fêtes, ce sont des fêtes du livre que j'organise. Auprès des auditeurs qui nous écoutent en province, c'est-à-dire en Normandie, et là j'avais inventé lire sous les pommiers, à Bordeaux lire dans les vignes, à Hyères lire sous les palmiers, évidemment, en Provence lire sous les oliviers, et là à Versailles sous les sapins, c'était au moment de Noël. Et là, je suis très contente parce qu'au Mans, où nous avons beaucoup d'auditeurs, j'ai su qu'il y avait des tilleuls. Donc, nous irons lire sous les tilleuls. En réalité, il fait encore un peu frais pour organiser une fête du livre en plein air. Donc, c'est la librairie Thuard qui nous accueille. C'est 24 route de l'Étoile, samedi après-midi, de 13h à 18h. Et je suis très fière de mon plateau, puisque vous pourrez rencontrer, samedi 17 avril, de 13h à 18h, Henri me fait signe de signaler la date, parce que j'ai l'habitude de ne pas la donner. vous rencontrerez Jean Raspail, Rénald de Sécher, Jean Madiran, Dominique Paoli, Marie-Madeleine Del Perugia, Philippe Maxence, Francis Bergeron, Jean-Pierre Lussan, Vincent Beurteret, Patrick Delon, Nicole Villeroux, les éditions Rejoice, et un éditeur de dessinateur de livres pour enfants, Jean-Louis Cherrier, qui fait de très jolis découpages.
Voilà, alors je fauche la dernière minute pour annoncer que la compagnie Les Gélinades, qui était venue ici interpréter Vipère sur le Gril, il y a quelques mois, redonne un spectacle, donc mise en scène toujours par Marie-Claude Jelin, le samedi 10 avril à 20h45 et le dimanche 11 avril à 17h50, espace Aubert de Riz à l'Étang-la-Ville. Samedi 10 avril, 20h45, dimanche 11 avril, 17h30, espace Aubert de Riz à l'Étang-la-Ville. Et on peut téléphoner au 06 88 89 03 27, 06 88 89 03 27.
Voilà, puis on redit le nom de nos
comédiens, interprètes.
Comédiens et interprètes qui nous ont...
Alors, Natacha Bouillet, je suis tombé dans le trou, ça y est, récitante et sœur Tourière à la fois, Lisa Livane, Madame de Montespan, Geneviève Taillade, Louise de Lavallière, et le percussionniste était Claude Sohen. Donc, dans une traduction du roman de la nouvelle de Gertrude von le Fort, Ultime Rencontre, en traduction d'Henri Péter, qui fait de grands gestes, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, bon, les gestes à la radio.
C'est un grand modeste, mais il nous a donné une grande joie, donc nous devons lui rendre.
Alors, lecture dirigée par Claude Darvy, mais ce soir, ça n'était pas dirigé, puisqu'elle n'est pas là.
Ouais, mais bon, c'est tout de même elle qui a
fait. Faut la signer.
Voilà,
c'est elle qui a préparé. Donc, Claude Darvy, lecture dirigée. Bravo.
Merci, merci à vous.
Merci d'être venu nous dire cette pièce.
Merci Anne Brassi.
Merci Anne.
À un prochain très tôt de Radio Courtoisie. Et soyez, considérez-vous chez vous si vous avez un autre beau texte à nous dire.
Merci
nous
beaucoup.
Nous vous accueillons merci. Avec bonheur.
Alors, merci.
Bonsoir, chers auditeurs. À bientôt.
Dans le cadre de nos archives non rediffusées à ce jour et à la demande de certains de nos auditeurs, vous venez d'entendre le libre journal très tôt de la France courtoise, dirigé par Yves Tarantic, assisté d'Anne Brassier, document d'archives du 30 mars 2010 et diffusé samedi 7 février 2026 de 19h30 à 21h. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir l'enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.